Ce qui a peut-être inquiété ou même terrifié les ingénieurs de cette pandémie, c'est que les autopsies pourraient bien montrer, et ont montré, qu'un certain nombre de ces soi-disant décès de Covid-19 sont en réalité morts de leur maladie comorbide. Dans la grande majorité des études d'autopsie rapportées, les pathologistes ont noté de multiples conditions comorbides, dont la plupart aux extrêmes de la vie pourraient à elles seules être mortelles. Auparavant, on savait que les virus du rhume avaient une mortalité de 8% dans les maisons de retraite. En outre, des preuves précieuses pourraient être obtenues à partir des autopsies qui amélioreraient les traitements cliniques, et pourraient éventuellement démontrer l'effet mortel des protocoles mandatés par le CDC que tous les hôpitaux étaient tenus de suivre, tels que l'utilisation de respirateurs et le remdesivir, un médicament mortel qui détruit les reins. Les autopsies ont également démontré une accumulation d'erreurs médicales, et de soins de mauvaise qualité, car le fait de protéger les médecins des unités de soins intensifs des yeux des membres de la famille conduit inévitablement à des soins de moindre qualité, comme l'ont rapporté plusieurs infirmières travaillant dans ces domaines. 53-55 crochets. Aussi mauvais que tout cela ait été, la même chose est faite dans le cas des décès dus au vaccin Covid, très peu d'autopsies complètes ont été effectuées pour comprendre pourquoi ces personnes sont mortes, c'est-à-dire jusqu'à récemment. Deux chercheurs hautement qualifiés, le Dr Sushari Bagdi, microbiologiste et expert hautement qualifié en maladies infectieuses, et le Dr Arne Burkhardt, pathologiste faisant autorité, et ayant été professeur de pathologie dans plusieurs institutions prestigieuses, ont récemment pratiqué des autopsies sur 15 personnes ayant mort après vaccination. Ce qu'ils ont trouvé explique pourquoi tant de personnes meurent et subissent des dommages aux organes et des caillots sanguins mortels. 5. Ils ont déterminé que 14 des 15 personnes sont décédées des suites des vaccins et non d'autres causes. Le Dr Burkhardt, le pathologiste, a observé de nombreuses preuves d'une attaque immunitaire sur les organes et les tissus des individus autopsiés, en particulier leur cœur. Cette preuve comprenait une invasion étendue de petits vaisseaux sanguins avec un nombre massif de lymphocytes, qui provoquent une destruction cellulaire importante lorsqu'ils sont libérés. D'autres organes, tels que les poumons et le foie, ont également été gravement endommagés. Ces découvertes indiquent que les vaccins amenaient le corps à s'attaquer avec des conséquences mortelles. On peut facilement voir pourquoi Anthony Fauci, ainsi que les agents de santé publique et tous ceux qui font la promotion de ces vaccins, ont publiquement découragé les autopsies sur les vaccinés décédés par la suite. On peut aussi voir que dans le cas des vaccins, qui étaient essentiellement non testés avant d'être approuvés pour le grand public, au moins les organismes de réglementation auraient dû être tenus de surveiller et d'analyser attentivement toutes les complications graves, et certainement les décès, liés à ces vaccins. La meilleure façon de le faire est d'effectuer des autopsies complètes. Bien que nous ayons appris des informations importantes de ces autopsies, ce qui est vraiment nécessaire, ce sont des études spéciales des tissus de ceux qui sont décédés après la vaccination pour la présence d'infiltration de protéines de pointe dans les organes et les tissus. Ce serait une information critique, car une telle infiltration entraînerait de graves dommages à tous les tissus et organes impliqués, en particulier le cœur, le cerveau et le système immunitaire. Des études animales l'ont démontré. Chez ces individus vaccinés, la source de ces protéines de pointe seraient les porteurs nanolipidiques injectés de l'ARN mais produisant la protéine de pointe. Aléa. Conclusion. Nous vivons tout l'un des changements les plus drastiques de notre culture, de notre système économique, et de notre système politique de l'histoire de notre nation ainsi que du reste du monde. On nous a dit que nous ne reviendrions jamais à la normale, et qu'une grande réinitialisation a été conçue pour créer un nouvel ordre mondial. Tout cela a été esquissé par Klaus Schwab, président du Forum économique mondial, dans son livre sur la grande réinitialisation. 66, ce livre donne beaucoup d'informations sur la pensée des utopistes qui sont fiers de revendiquer la crise pandémique comme moyen d'inaugurer un nouveau monde. Ce nouvel ordre mondial est sur les planches à dessein des manipulateurs d'élite depuis plus d'un siècle. 73-74, dans cet article, je me suis concentré sur les effets dévastateurs que cela a eu sur le système de soins médicaux aux États-Unis, mais aussi sur une grande partie du monde occidental. Dans des articles antérieurs, j'ai discuté de la lente érosion des soins médicaux traditionnels aux États-Unis et de la façon dont ce système est devenu de plus en plus bureaucratisé et enrégimenté. 7-8 crochets, la pandémie a transformé notre système de santé du jour au lendemain. Comme vous l'avez vu, une série d'événements sans précédent s'est produite au sein de ce système. Les administrateurs d'hôpitaux, par exemple, ont assumé la position de dictateurs médicaux, ordonnant aux médecins de suivre des protocoles dérivés non pas de ceux qui ont une vaste expérience dans le traitement de ce virus, mais plutôt d'une bureaucratie médicale qui n'a jamais traité un seul patient Covid-19. L'utilisation obligatoire de respirateurs sur les patients des soins intensifs Covid-19, par exemple, a été imposée dans tous les systèmes médicaux, et les médecins dissidents ont été rapidement démis de leur fonction de soignants, malgré leur démonstration de méthodes de traitement nettement améliorées. De plus, les médecins ont été invités à utiliser le médicament remdesivir malgré sa toxicité avérée, son manque d'efficacité et son taux de complications élevé. On leur a dit d'utiliser des médicaments qui nuisent à la respiration et de masquer chaque patient, malgré les difficultés respiratoires du patient. Dans chaque cas, ceux qui ont refusé d'abuser de leurs patients ont été renvoyés de l'hôpital et ont même fait face à une perte de licence ou pire. Pour la première fois dans l'histoire de la médecine moderne, le traitement médical précoce de ces patients infectés a été ignoré à l'échelle nationale. Des études ont montré qu'un traitement médical précoce sauvait 80% du nombre plus élevé de ces personnes infectées lorsqu'il était initié par des médecins indépendants. 43, 44 crochets, un traitement précoce aurait pu sauver plus de 640 000 vies au cours de cette pandémie. Malgré la démonstration de la puissance de ces premiers traitements, les forces de contrôle des soins médicaux ont poursuivi cette politique destructrice. Les familles n'étaient pas autorisées à voir leurs proches, obligeant ces personnes très malades hospitalisées à affronter seules leur mort. Pour ajouter l'insulte à l'injure, les funérailles étaient limitées à quelques membres de la famille en deuil, qui n'étaient même pas autorisés à s'asseoir ensemble. Pendant tout ce temps, les grands magasins, tels que Walmart et Costco, étaient autorisés à fonctionner avec des restrictions minimales. Les patients des maisons de soins infirmiers n'étaient pas non plus autorisés à recevoir des visites familiales, étant à nouveau forcés de mourir seuls. Pendant tout ce temps, dans un certain nombre d'États, le plus transparent étant celui de New York, des personnes âgées infectées ont été délibérément transférées des hôpitaux vers des maisons de retraite, ce qui a entraîné un taux de mortalité très élevé chez ces résidents de maisons de retraite. Au début de cette pandémie, plus de 50% de tous les décès survenaient dans des maisons de retraite. Tout au long de cette pandémie, nous avons été nourris d'une série interminable de mensonges, de distorsions et de désinformations de la part des médias, des responsables de la santé publique, des bureaucraties médicales, CDC, FDA et OMS, et des associations médicales. Des médecins, des scientifiques et des experts en traitements infectieux qui ont formé des associations visant à développer des traitements plus efficaces et plus sûrs, ont été régulièrement diabolisés, harcelés, honteux, humiliés, et subissent une perte de licence, une perte de privilèges hospitaliers, dans au moins un cas, ordonné de subir un examen psychiatrique. 2, 65, 71 crochets. Anthony Fauci a reçu un contrôle essentiellement absolu de toutes les formes de soins médicaux lors de cet événement, notamment en insistant pour que les médicaments dont il a bénéficié soient utilisés par tous les médecins traitants. Il a ordonné l'utilisation de masques, bien qu'il se soit d'abord moqué de l'utilisation de masques pour filtrer un virus. Les gouverneurs, les maires et de nombreuses entreprises ont suivi ses ordres sans poser de questions. Les mesures draconiennes utilisées, le masquage, les verrouillages, les tests des personnes non infectées, l'utilisation du test PCR inexact, la distanciation sociale, et la recherche des contacts s'étaient auparavant avérées peu ou pas utiles lors des pandémies précédentes, mais toutes les tentatives de rejeter ces méthodes n'ont servi à rien. Certains États ont ignoré ces ordonnances draconiennes, et ont enregistré le même nombre de cas ou moins, ainsi que des décès, que les États avec les mesures les plus strictement appliquées. Encore une fois, aucune preuve ou démonstration évidente dans ce sens n'a eu d'effet sur la fin de ces mesures socialement destructrices. Même lorsque des pays entiers, comme la Suède, qui ont évité toutes ces mesures, ont démontré des taux d'infection et d'hospitalisation égaux à ceux des nations avec les mesures les plus strictes, et les plus draconiennes, aucun changement de politique de la part des institutions de contrôle n'a eu lieu. Les experts en psychologie des événements destructeurs, tels que les effondrements économiques, les catastrophes majeures, et les pandémies précédentes, ont démontré que les mesures draconiennes s'accompagnent d'un coût énorme sous la forme de morts de désespoir, et d'une augmentation spectaculaire des troubles psychologiques graves. Les effets de ces mesures pandémiques sur le développement neurologique des enfants sont catastrophiques, et en grande partie irréversibles. Au fil du temps, des dizaines de milliers de personnes pourraient mourir à la suite de ces dommages. Même lorsque ces prédictions ont commencé à apparaître, les contrôleurs de cette pandémie ont continué à toute vapeur. Augmentation drastique des suicides, augmentation de l'obésité, augmentation de la consommation de drogue et d'alcool, aggravation de nombreuses mesures sanitaires, et augmentation terrifiante des troubles psychiatriques, notamment la dépression et l'anxiété, ont été ignorés par les responsables contrôlant cet événement. Nous avons finalement appris que de nombreux décès étaient le résultat de négligence médicale. Les personnes atteintes de maladies chroniques, de diabète, de cancer, de maladies cardiovasculaires et de maladies neurologiques n'étaient plus suivies correctement dans leurs cliniques et cabinets médicaux. Les opérations non urgentes ont été suspendues. Beaucoup de ces patients ont choisi de mourir chez eux plutôt que de risquer d'aller à l'hôpital et beaucoup ont considéré les hôpitaux comme des maisons de la mort. Les registres des décès ont montré qu'il y avait une augmentation des décès chez les personnes âgées de 75 ans et plus, principalement expliquée par les infections à COVID-19, mais pour les personnes âgées de 65 à 74 ans, les décès avaient augmenté bien avant le début de la pandémie. 69, entre 18 ans et 65 ans, les dossiers démontrent une hausse choquante des décès non COVID-19. Certains de ces décès s'expliquent par une augmentation spectaculaire des décès liés à la drogue, quelques 20 000 de plus qu'en 2019. Les décès liés à l'alcool ont également augmenté de manière substantielle, et les homicides ont augmenté de près de 30% dans le groupe des 18 à 65 ans. Le chef de la compagnie d'assurance en Amérique a déclaré que leurs données indiquaient que le taux de mortalité des personnes âgées de 18 à 64 ans avait augmenté de 40% au cours de la période pré-pandémique. 21. Scott Davidson, PDG de la société, a déclaré que cela représentait le taux de mortalité le plus élevé. Taux dans l'historique des dossiers d'assurance, qui effectuent chaque année de vastes collectes de données sur les taux de mortalité. Davidson a également noté que cette augmentation du taux de mortalité n'avait jamais été observée dans l'histoire de la collecte de données sur les décès. Les catastrophes précédentes d'une ampleur monumentale n'ont augmenté les taux de mortalité que de 10%, 40% et sans précédent. Le Dr Lindsay Weaver, médecin-chef de l'Indiana, a déclaré que les hospitalisations dans l'Indiana sont plus élevées qu'à tout moment au cours des 5 dernières années. Ceci est d'une importance cruciale puisque les vaccins étaient censés réduire considérablement les décès, mais c'est le contraire qui s'est produit. Les hôpitaux sont inondés de complications liées aux vaccins et de personnes dans un état critique à cause de la négligence médicale causée par les confinements et d'autres mesures pandémiques. 46, 56 crochets. Un nombre dramatique de ces personnes meurt maintenant, le pic se produisant après l'introduction des vaccins. Les mensonges de ceux qui se sont nommés dictateurs médicaux sont sans fin. D'abord, on nous a dit que le confinement ne durerait que 2 semaines, ils ont duré plus d'1 an. Ensuite, on nous a dit que les masques étaient inefficaces, et n'avaient pas besoin d'être portés. Cela s'est vite inversé. Ensuite, on nous a dit que le masque en tissu était très efficace, maintenant ce n'est plus le cas et tout le monde devrait porter un masque N95 et avant cela, il devrait porter un double masque. On nous a dit qu'il y avait une grave pénurie de respirateurs, puis nous découvrons qu'ils sont inutilisés dans les entrepôts, et dans les dépotoirs de la ville, toujours dans leurs caisses d'emballage. Nous avons été informés que les hôpitaux étaient principalement remplis de personnes non vaccinées, et nous avons découvert plus tard que c'était exactement le contraire dans le monde entier. Lors de la sortie des vaccins, les femmes ont été informées que les vaccins étaient sûrs pendant tous les stades de la grossesse, seulement pour découvrir qu'aucune étude n'avait été réalisée sur la sécurité pendant la grossesse lors des tests de sécurité avant la sortie du vaccin. On nous a dit que des tests minutieux sur des volontaires avant l'approbation de l'EUA pour un usage public ont démontré l'extrême sécurité des vaccins, seulement pour apprendre que ces malheureux sujets n'étaient pas suivis, que les complications médicales causées par les vaccins n'étaient pas payées, et que les médias couvraient tout cela. Crochet 67, nous avons également appris que les fabricants pharmaceutiques des vaccins avaient été informés par la FDA que d'autres tests sur les animaux n'étaient pas nécessaires, le grand public serait les cobayes. Incroyablement, on nous a dit que les nouveaux vaccins à ARN mais de Pfizer avaient été approuvés par la FDA. Qui était une tromperie de coup près, en ce qu'un autre vaccin avait l'approbation, Comirnaty, et non celui utilisé, le vaccin BioNTech. Le vaccin communautaire approuvé n'était pas disponible aux États-Unis. Les médias nationaux ont déclaré au public que le vaccin Pfizer avait été approuvé, et n'était plus classé comme expérimental, un mensonge flagrant. Ces mensonges mortels continuent. Il est temps d'arrêter cette folie et de traduire ces personnes en justice.